C'est une étude de l'Institut Montaigne qui a été rendue publique cette semaine. Une étude qui met en exergue, comme son titre l'indique, une polarisation des médias français entre d'un côté des titres jugés élitistes et institutionnels, type Le Monde, Le Figaro, Libération, BFM ou France Culture, de l'autre des médias à la périphérie du noyau dur où l'on trouve pêle-mêle aussi bien Rechatou des France et Valeurs Actuelles qu'Alternatives Économiques et Le Monde Diplomatique. Alors sur quoi repose cette différenciation et comment fonctionne-t-elle? Quel impact a-t-elle sur la société? Comment corriger les effets pervers de cette polarisation? En somme, quelle alarme tente de sonner cette étude? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités ce matin. Dominique Cardon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste des cultures numériques, c'est d'ailleurs le titre de votre dernier ouvrage paru aux presses de Sciences Po. Vous dirigez le Media Lab de Sciences Po qui a participé à cette enquête aux côtés de l'école de journalisme de Sciences Po et du Center Civic Media du MIT. Et puis, à côté de vous se trouve Alexandra Schwarzbrot, bonjour.
Bonjour.
Nos auditeurs vous connaissent bien puisque vous intervenez régulièrement dans la matinale de Guillaume Erner. Vous êtes la directrice adjointe de la rédaction de Libération. On va commencer, si vous le voulez bien, avec vous, Dominique Cardon, par cette étude. Que nous dit-elle? Sur quoi repose-t-elle? Au départ, c'est une comparaison entre France et États-Unis.
Alors c'est ça le cœur de l'affaire. Elle vient d'un débat sur la polarisation de l'espace politique américain et du débat sur les fameuses fake news qu'on observe toujours en regardant les producteurs de désinformation, et puis on a le malheureux récepteur qui est baladé par l'infox auquel il a été soumis. L'idée de avec nos collègues américains du MIT et de Harvard, c'est de regarder la structure globale. Parce que finalement, la fake news a moins d'importance que sa mise en circulation et de savoir qui la relaie, dans quel espace et de quelle manière. Et ce qu'ont fait nos collègues américains, c'est qu'ils ont montré qu'aux États-Unis, on avait une polarisation, j'allais dire, verticale de l'espace médiatique, c'est-à-dire que du bas en haut, et le haut, ce sont les très grands médias, très forte audience, on a un clivage absolument considérable qui s'est créé à partir du moment où Fox News et Breitbart ont pris le pouvoir sur, on pourrait dire, les médias de centre-droit américains, et qu'ils se sont complètement clivés de l'ensemble de l'autre espace médiatique américain qui concerne maintenant la plupart des médias américains. Et que cette division verticale a créé ce monde des réalités alternatives dans lequel une boucle de propagande s'est mise en place entre des petits sites d'extrême droite, suprémacistes blancs, multiples et variés, faisant remonter des informations que propulse ensuite Fox News auprès des électeurs qui de Donald Trump. Alors, notre hypothèse, c'était au Media Lab, c'était de refaire cette enquête sur la France pour voir à quoi ressemble la structure française.
Et quelle spécificité alors française?
Eh bien, c'est qu'elle n'est pas découpée verticalement, elle est découpée horizontalement, on pourrait dire, entre des grands médias à haute visibilité professionnelle, les médias du centre, de l'hypercentre, on pourrait dire,
un qui cœur
sont
même.
Les grands médias, le cœur des médias français, et dans lequel on a un taux de citation mutuelle qu'on observe notamment, c'est la manière dont ils sont relayés sur Twitter, mais surtout la manière dont les journalistes entre eux se citent à travers des liens hypertextes. Donc c'est une approche vraiment quantitative et structurelle qui mérite examen, et que ils se citent entre eux, mais ils ne citent pas les autres médias. En revanche, on a toute une sphère contre-informationnelle, une périphérie de médias qui sont beaucoup plus politisés ou de médias qui ne sont pas des médias professionnels, qui sont des blogs, des sites multiples et variés, toute une sphère de contre-information d'extrême droite, de militants très très politisés qui passent leur temps à citer les grands médias mais qui en revanche ne sont pas cités en retour. Donc on a une sorte de coupure qui s'exerce horizontalement, et puis on a dans le débat français, mais peut-être qu'on va en revenir dans la discussion aussi, un autre espace qui est devenu qui s'est déconnecté en partie de l'espace médiatique, qui est celui des conversations qui elles ont lieu sur des réseaux sociaux et notamment sur les réseaux sociaux fermés comme Facebook.
Vous dites, Dominique Cardon, que c'est un axe horizontal et pas verticale. Et pourtant, quand on vous entend décrire cette distinction, cette différenciation au sein même de la structure du système médiatique français, on entend, on pourrait le formuler de cette façon-là, médias d'en haut, médias d'en bas, ou certains diraient médias dominants, ou voire partie des médias, et puis les autres.
Oui,
et là, ça crée une hiérarchie qui est plutôt verticale.
Oui, oui, alors excusez-moi, c'est mon axe est je l'appelle horizontal pour bien dire qu'il y a un haut et qu'il y a un bas, hein, donc c'est bien dans ce sens-là qu'on l'entend.
Alors c'est effectivement plutôt verticale. Et sur quelle base vous vous êtes fondé pour faire cette distinction? Juste un exemple, parce que Reporter et Mediapart pourront être surpris de se retrouver aux côtés du Figaro dans le cœur médiatique. Alors, est-ce que c'est en fonction du nombre de tirages, du nombre d'audiences, du clivage politique, justement comme aux États-Unis,
alors,
ou vraiment de l'auto-référencement des citations?
On utilise vraiment une sorte de méthode qui a son caractère absolument formel et discutable, du coup, parce qu'elle est très formelle, c'est de regarder comment ils se citent entre eux, mais de le regarder sur de très très gros volumes. Donc il y a 420 médias dans l'espace, il y a quelques centaines de milliers de liens hypertextes qui ont été mesurés. Et donc, à partir de très gros ensembles d'articles, de voir la manière dont il y a un système de référencement croisé, parce que, alors ça appartient à la culture numérique, ça appartient aussi au type de méthode digitale qu'on mobilise pour ce genre d'enquête, se citer mutuellement, ou être cité par, est un signal juste de cette structure. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on partage les mêmes points de vue, mais ça veut dire que, en se citant, on se reconnaît appartenir à un même espace d'énonciation, un même espace aussi professionnel dans lequel il y a des formes de reconnaissance mutuelle de ceux qui produisent de l'information qu'on peut utiliser dans son propre article et en ne citant pas de ceux qu'on ne peut pas utiliser dans ses propres articles.
Alors, pour faire bien le tour de la question avant de donner la parole à Alexandra Schwarzbrod, vous donnez un exemple dans cette enquête, Dominique Cardon, de cette polarisation donc du système médiatique à la française, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Expliquez-nous.
Alors, ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes est effectivement une sorte de signe. Nous, l'interprétation de l'étude, c'est de dire que finalement, le fait qu'on a ce gros cœur qui est assez dense dans les liens qu'il partage entre lui est une relative qualité à l'égard de la remontée des fausses informations. Parce qu'un des effets, c'est qu'évidemment, du coup, il ne remonte pas au centre de la conversation des fausses informations. Ce que l'on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'ils ont fabriqué contre les médias du centre un autre espace médiatique qui a pris Facebook comme territoire et comme espace principal, et dans lequel les Gilets jaunes, s'opposant en grande partie, on a vu ce discours apparaître aux médias du centre, ont aussi produit toute une série d'automédias, dont les Facebook Live, dont toute une série de publications produites elles-mêmes par les Gilets jaunes sont le témoin. Et puis aussi la possibilité que dans cette déconnexion, en fait, où on a deux espaces qui s'opposent frontalement, des médias de la périphérie, c'est-à-dire des médias plutôt de la contre-information, des médias qui sont très en marge ou très hétérodoxes par rapport à l'espace cœur de l'espace public, puissent venir nourrir la discussion d'informations qui soient moins précises, plus orientées, comme il a été montré dans quelques études sur les Gilets jaunes dans Facebook.
Alors, la discussion est ouverte. Alexandra Schwarzbrod, représentante d'un média du centre, puisque c'est Libération. Libération, d'ailleurs, qui a été le seul journal, à ma connaissance, à avoir fait écho assez largement par la plume de Jérôme Le Filiatre de cette étude. Oui, comment pages. Avez-vous réagi et comment réagissez-vous à ce que vient de décrire Dominique Cardon?
Mais, moi, je comprends pas très bien ce critère des citations, parce que, évidemment, quand vous citez... Moi, je trouve que le critère pour l'information, c'est la qualité, la rigueur, le désir d'informer et non de contre-informer. Donc, ça me paraît normal, évident, que des journaux, que ce soit Le Figaro, Le Monde, Libé, qui essayent de travailler avec le plus de rigueur possible et qui sont là pour informer, non pas contre-informer, ne citent pas des sites, des blogs, enfin des nouveaux médias qui sont là pour faire de la contre-information, de l'infox, comme vous dites.
Alors, dans les satellites et les périphéries, oui. Ça n'est pas que des blocs de contre-information des théories complotistes.
Oui, bien sûr, mais il y en a beaucoup quand même. Dans ceux que j'ai vu cités dans votre étude, c'est quand même, il me semble que c'est quasiment la majorité. Donc, c'est pas une question d'entre-soi, parce que moi, ça m'agace un peu ce qui est tout à coup, depuis les Gilets jaunes, ce qui est reproché à la presse, aux médias, d'être cette espèce d'entre-soi, d'élitisme, de parisianisme. Et non, c'est pas une question d'entre-soi, c'est juste qu'on cite des papiers, des journaux, quand on considère que l'info qu'ils ont produite est de qualité et qu'elle nous intéresse. Et il me semble que quand Mediapart, Rue 89 se sont créés à leur époque, on les citait largement quand ils produisaient un reportage, une enquête que l'on trouvait...
Il se trouve que Mediapart est donc dans le cœur. Hein,
voilà, j'ai appris chez Mediapart et dans voilà. le cœur. Mais voilà, donc cette histoire de citation me paraît d'autocitation qui donne l'impression d'une petite élite et d'un entre-soi m'agace un peu parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt puisque je suis sûre qu'il nous est arrivé de citer des médias que vous considérez dans la périphérie quand ils ont produit une enquête de qualité. Il faudrait chercher, je suis sûre qu'on trouverait ça.
Alors, Dominique Cardon.
Non, mais on est bien d'accord. Moi, ce que cherche vraiment à dire l'étude, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que quand il y a un espace professionnel, il se cite mutuellement parce qu'il appartient à un même espace dans lequel le respect des procédures, des règles et de la citation mutuelle fabrique un espace. Et on ne cherche pas du tout à dire que fabriquer un espace ne soit pas ça.
Protège aussi, d'une certaine façon
Ça protège et c'est aussi l'élément qui donne une verticalité à cet espace, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un espace central qui se reconnaît lui-même en se citant mutuellement. Si on insiste beaucoup là-dessus, c'est à cause de la comparaison franco-américaine, parce que aux États-Unis, Fox News ne cite pas le New York Times, il cite Breitbart et les autres sites suprémacistes.
Donc, mais est-ce que ça veut dire que ce qui se passe aux États-Unis pourrait nous arriver c'est quoi le problème que vous posez du coup dans cette étude, Dominique Cardon?
Alors la question est justement de savoir quelles sont les fragilités de cet espace professionnel de citations mutuelles à l'égard de nouveaux entrants à la périphérie qui pourraient vouloir être cités par... Et donc, ce qui est très frappant dans le cas français, c'est que quand des gens tapent à la porte, plutôt d'ailleurs du côté de la polarité d'extrême droite de cet espace, il ne reçoit pas de citations en retour, il reçoit peu de citations en retour pour les raisons que vous
donnez.
S'ils
ne sont pas là pour faire de l'information, mais pour faire de la propagande ou de l'idéologie, enfin voilà, ça me paraît normal en même temps qu'ils ne soient pas cités.
Oui, mais nous on cherche pas à dire ce qui est normal ou ce qui est pas normal. Alors ce qu'on a aussi essayé de dire et dans un autre aspect de l'étude, c'est qu'on a pris un volume très important d'articles qui ont été publiés sur les gilets jaunes dans ces deux catégories, on va dire du centre et de la périphérie pour en regarder les thématiques. Et là, ce qui apparaît quand même, alors c'est qu'il y a des différences de cadrage de l'événement et de la mobilisation qui sont très sensiblement différents dans ces deux espaces. Alors moi, je pense que la théorie les médias du centre devraient être le reflet de la société française.
Et qu'ils ne le sont pas toujours, c'est ça que vous dites.
Mais là, non, en l'occurrence, ils ne le sont pas. Ils se sont vraiment centrés. Alors là, on parle toujours de volume. Hein, oui, les effets des grandes enquêtes, c'est qu'elles donnent comme ça des gros volumes d'informations. Ils se sont centrés sur les événements. Ils se sont centrés sur les conséquences.
Politique.
Ils se sont centrés sur les manifestations et les violences policières. Et quand on regarde ce qui a été publié dans cet autre espace, celui de la périphérie, là, on a un intérêt beaucoup, beaucoup plus fort sur les valeurs qui ont été défendues par le mouvement autour de l'égalité, autour de la démocratie, autour de la transparence, qui sont des termes qui apparaissent beaucoup moins dans les articles des médias centraux. Et puis aussi autour des situations vécues par les gilets jaunes et les catégories sociales qui ont été les plus mobilisées, en fait.
Non, mais c'est très intéressant, cette affaire des gilets jaunes. C'est vrai que c'est né sur Facebook, mais il me semble quand même aussi que les médias du cœur, comme vous les appelez, s'en sont quand même assez vite emparés une fois que ça a éclaté.
C'est pas ce que dit Dominique Cardon, emparer c'est certain, mais du point de vue des conséquences gouvernementales pour telle responsable politique,
pas seulement, encore bien sûr, on en
effet de loupe, encore une fois.
Alors, je cherche pas à défendre à tout prix les journaux du centre. Je pense que toutes les piqûres de rappel régulièrement, et c'est vrai que cette affaire des gilets jaunes, ça a été très intéressant. Je pense qu'on sait tous, je ne sais pas ce qui s'est passé au Monde ou au Figaro, mais c'est vrai qu'à Libé, à un moment, on s'est demandé est-ce qu'on est assez à l'écoute du terrain, de ce qui se passe.
Cette diversité de représentativité,
est-ce qu'on est assez sur le terrain hors de Paris, et ça fait toujours du bien. C'est très important d'avoir ces piqûres de rappel, de pas s'endormir sur ce qu'on fait. On a l'impression de le faire bien, et voilà. Donc c'est très important. Et en fait, le résultat de nos réflexions, c'est que certes, quand il a éclaté le mouvement, on a été surpris, mais on a très vite essayé justement de bosser sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., pour essayer de comprendre qui ils étaient, ce qu'ils voulaient, ce qui se passait, quel allait être l'avenir de ce mouvement. Je crois qu'à Libé, on a quand même une énorme force, une énorme chance, c'est d'avoir un réseau de correspondants hors de Paris absolument remarquable, mais vraiment, et qui nous fait remonter régulièrement ce qui se passe sur le terrain et des enquêtes sur le déclassement, sur le surendettement, autant d'éléments sur les justement le drame des personnes célibataires et notamment des femmes. Ça, on l'a beaucoup couvert, même bien avant le mouvement des Gilets jaunes. Alors c'est vrai que il y a un moment où tout ça s'est agrégé et ça a constitué ça a provoqué l'éruption de ce mouvement qu'on n'a pas vu venir, mais que personne n'a vu venir. Mais j'ai pas l'impression qu'on se soit uniquement focalisé. Quand je dis on, c'est les pas seulement Libé, hein, c'est tous les médias du cœur, comme vous les appelez. Je crois qu'assez vite, quand même, tout le monde a envoyé des gens sur le terrain pour essayer de comprendre qui étaient ces gilets jaunes, ce qu'ils voulaient, quels étaient leurs manques, leurs revendications.
Mais parce que, en fait, au fond, ce que dit cette étude de Dominique Cardon, c'est que cette structuration à plusieurs vitesses, hein, d'une certaine façon, vient alimenter le soupçon de déconnexion. Et puis, à terme, c'est le risque de contribuer au détournement du public, donc à cette fameuse défiance envers les médias. Malgré tout, peut-être que c'est important ce que dit Alexandra Schwarzbrot, parce que cette étude a été réalisée il y a un an, l'année dernière, on peut dire. Donc, peut-être que c'est intéressant d'en faire une autre en fin d'année pour voir comment les médias du cœur ont bougé à l'aune de ce mouvement des Gilets jaunes. Comment ils évoluent pour éviter la fossilisation, qui est quand même la conclusion de votre étude. Absolument. Le risque de fossilisation.
Mais je redis que le fait qu'il y ait ce cœur est à la fois une grande qualité, parce que ça préserve la qualité de l'information face à tous ceux qui essayent de la bousculer en entrant par les bords. Et en même temps, effectivement, il y a un risque de fossilisation. Là, on dépasse le cœur de l'étude. Et effectivement, nous, au Media Lab, on est en train de continuer cette recherche avec des données là venant de sur Facebook, où il y a évidemment les grands médias ont fait de magnifiques reportages, de enquêtes approfondies pour aller comprendre la.
C'est pas non plus le procès des médias.
C'est pas du tout l'idée. C'est pas vrai, franchement pas du tout l'idée.
Mais
la substance,
mais ça peut,
la substance.
Oui, c'est un peu dangereux parce que encore une fois, moi, en lisant le papier qu'écrit Jérôme Le Filiat dans mon propre journal, parfois j'étais un peu énervée parce que j'avais l'impression qu'il y avait quand même derrière ces propos, cette espèce de côté un peu facile que je sens ces derniers temps, de pointer du doigt, Alors ce côté entre soi élitiste des médias, et ce qui est vraiment, je suis pas d'accord avec ça. Et alors, je voulais juste vous dire que justement nous, ça a provoqué une grande réflexion chez nous, et on a créé même depuis le mouvement des Gilets jaunes une newsletter Marseille, hein, où on a une équipe qui est maintenant basée à Marseille et qui toutes les semaines écrit uniquement sur Marseille, et ça justement pour préparer les municipales et pour essayer de comprendre ce qui se passe à Marseille tous les jours sur le terrain.
Dominique Cardon, vous avez 10 secondes.
Alors disons-le autrement, il y a pour tous, journalistes, experts et hommes politiques, un problème de représentation de notre société. Et si vous vous en rendez compte à travers ces mesures, ça veut bien dire qu'il y a une partie de l'espace social français qui est peu présent dans les médias, dans les discours des
citoyens. Et le grand mérite est d'inviter à la réflexion, effectivement, notamment donc avec cette étude que j'invite nos auditeurs à lire. L'étude complète est à lire sur le site de l'Institut Montaigne. Et puis pour aller plus loin, Dominique Cardon, j'invite aussi nos auditeurs à lire les deux analyses, puisque c'est en deux volets, que vous avez écrites pour le site AOC. Pourquoi avons-nous si peur des fake news, puisque les fake news viennent aussi renforcer ce système ou le fissurer. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette fabrique médiatique. Dominique Cardon et Alexandra Schwarzbrot. Et bon samedi à vous, les 8h sur France Culture.